Gabon et capitale centrafricaine, c'est l'heure du journal. Une présentation de Inès Larongoupo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition. À la une, la circulation des armes en République centrafricaine à l'approche des élections. Notre enquête à suivre au début de ce journal. Nous parlerons également des dispositifs mis en place pour la sécurisation des élections dans notre pays. Et puis, réparer les routes centrafricaines, c'est la promesse du gouvernement. Des précisions dans ce journal. En sport, les supporters des fauves de la diaspora demandent aux autorités centrafricaines de mettre les moyens pour préparer les footballeurs.
À 5 semaines des élections groupées en République centrafricaine, la rédaction de Ndekeluka s'intéresse à la circulation des armes dans le pays.
L'accord de paix de Khartoum signé en 2019 engage les rebelles à se désarmer. Mais où en est-on aujourd'hui? Armando Yanguindi, vous avez enquêté ces derniers jours sur la situation sécuritaire, notamment dans le nord-est du pays.
Écoutez Inès, ce qui apparaît clairement dans les témoignages que j'ai pu recueillir ces dernières semaines, c'est la circulation d'armes neuves. Des véhicules flambant neufs également, de type Kalachnikov, lance-roquettes, mitrailleuses 12-7, montées sur des pick-up, du matériel qui circule librement à la vue de tous. La région dont on parle, elle s'étend de Bria, Bambouti, Nzako, Alindao, jusqu'à Mobaï, une zone contrôlée, on le sait, par le groupe armé de l'UPC piloté par Ali Darassa. Toujours selon nos sources, ces hommes arborent des tenues militaires de première main. Leurs bérets sont aussi similaires à ceux des forces armées centrafricaines et ils patrouillent régulièrement sur tout ce territoire. Leur objectif, collecter des impôts et toutes sortes de taxes sur les véhicules, les commerces. Selon nos informations, ces hommes exigent aussi que des éleveurs peuls leur versent une somme d'argent avant de faire paître leurs bêtes.
Autre région, autre situation, Armando.
Oui, Inès, au nord-ouest du pays, cette fois, on rappelle qu'un des gradés des FACA est toujours détenu depuis 2 mois par Abbasidi qui a dégolé dans l'Ouampendé, région contrôlée en partie par les 3R. D'après des habitants de Kouy qui ont accepté de me parler, ce mouvement continue de recruter des hommes. Ces véhicules sont très souvent lourdement armés, ne cessent de faire la navette entre le Cameroun ou le Tchad depuis la Centrafrique. Et il y a 2 semaines, souvenez-vous, les 2 députés Martin Ziguili et Ernest Musedio ont dénoncé des exactions commises par ces rebelles. Martin Ziguili va même jusqu'à parler d'un véritable Far West lorsqu'il évoque la situation dans ces régions.
Armando, comment réagissent le gouvernement et la MINUSCA face à cette situation?
Eh bien, la MINUSCA affirme travailler main dans la main avec le gouvernement. Ses troupes sur le terrain ne resteront pas inactives face à la recrudescence des armes ou des véhicules armés des rebelles. Lors d'une conférence de presse hier à Bangui, la mission onusienne se dit consciente de la réalité de la situation sur le terrain. Elle a voulu aussi se montrer rassurante. Des checkpoints, nous dit-on, sont en train d'être installés dans ces régions. Un tour de vis qui est censé réduire les déplacements et la capacité d'action des rebelles.
Armando Yanguindi, merci à vous. On va se pencher maintenant sur les détails du dispositif annoncé par la MINUSCA.
Oui Inès, une conférence a justement été consacrée hier au renforcement de la présence de checkpoints à Bangui et dans le reste du pays.
Selon la mission onusienne, ce renforcement fait partie du plan de sécurisation des élections, plan qui prévoit une coordination entre les FACA et la MINUSCA. C'est ce qu'a précisé le lieutenant-colonel Abdul Aziz Fall, porte-parole de la force de la MINUSCA, au micro de Francis Claver Kala.
Il s'agit en fait de coordonner les actions entre les FACA, les FSI et la force ainsi que UNPOL. Et c'est dans ce cadre en fait qu'on identifie les points sensibles où il faut apporter la sécurité, notamment faire en sorte que tous les endroits où il va y avoir des élections, que la sécurité puisse y être apportée. Et vous avez noté qu'au début de ce mois, il y a un exercice qui a été conduit entre la force, UNPOL, les FACA et les FSI afin de valider les différentes procédures opérationnelles et vérifier en fait l'interopérabilité qu'il y a entre nous et les FACA pour pouvoir faire face aux incidents qui pourraient survenir, notamment dans le cadre des élections. Donc on travaille de concert avec ces autorités, les forces locales, pour s'assurer qu'on soit prêt avant les élections.
La MINUSCA et le gouvernement se sont par ailleurs rencontrés lundi pour la mise en place des comités préfectoraux de sécurisation des élections.
En parlant toujours des élections, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, plaide pour le respect de l'accord politique de paix et de réconciliation.
Oui, Verdiane, des jeunes ont échangé hier avec l'ambassadeur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à ce sujet. Objectif, défendre le rôle des jeunes qui sont négligés dans la mise en œuvre de cet accord de paix. Pamela Audrey-Diron, présidente du CNJ, avec Faustin Modessi Zegaba.
La question de paix, qui est une question qui nous touche personnellement, en tant que leader des jeunes, nous avons l'obligation de pouvoir œuvrer dans le processus de paix. Et sur le terrain, dans le cadre de mise en œuvre de cet accord, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de failles. Et surtout de laxisme du côté des garants qui sont appelés à suivre et à jouer leur rôle pour rappeler les uns et les autres, les signataires, sur le droit chemin. Et l'accord en elle-même est en train d'être mis à côté en faveur d'autres accords. Et c'est ce qui nous inquiète parce que nous sommes en train d'aller dans un processus électoral. Et il est de notre devoir d'œuvrer pour la paix. Nous allons continuer le plaidoyer auprès de qui, de droit, déjà les partenaires et les garants ont témoigné leur volonté de pouvoir nous recevoir et surtout de pouvoir répondre à quelques préoccupations.
Face à la dégradation avancée des routes à Bangui et à l'intérieur du pays, l'État centrafricain engage des projets de réhabilitation.
Le gouvernement assure que les travaux vont bientôt démarrer. Ils doivent commencer sur le tronçon aéroport de Bangui-Poko, PK0 et la voirie urbaine le 20 novembre pour une durée de 8 mois. Igor Desquin, Sénapaï.
Selon le ministre des Travaux publics Gismala Hamza, une équipe technique a déjà établi le plan de déviation pour le bon déroulement des travaux de la route aéroport Bangui-Poko PK0. Tout est concentré sur l'avenue de France via le rond-point Goumba. Gismala Hamza.
Nous avons prévu l'aménagement de l'avenue de France. Donc, arrivé au niveau de rond-point 5e, appelé communément rond-point Goumba, donc on va ouvrir une route en terre qui va jusqu'à l'aéroport. Donc, on va ouvrir une route. Donc, si c'est urgent, les gens vont prendre cette route, venir au niveau de martyrs pour continuer en ville.
Le gouvernement compte aussi reprendre les travaux des infrastructures routières dans la ville de Bangui pour permettre aux usagers de vaquer librement à leurs occupations.
Nous avons déjà fait un plan de la voirie urbaine de la ville de Bangui. Donc pour dire que les routes doivent être reconstruites à l'usage. Parce que vous savez que la plupart de ces routes sont construites en indus superficiels et que ces indus superficiels ont une courte durée. Aujourd'hui nous sommes en train de penser à faire en enrobé. Toutes les routes de la ville doivent être en enrobé.
Pour remettre le corridor Bangui-Beloko totalement en bon état, le gouvernement a déjà lancé les travaux de réhabilitation de l'axe Bossembele-Bossemtele afin de connecter Baoro Boire presque en finition. Une initiative pour le relèvement de l'économie nationale. Gismala Hamza.
L'ONEM va faire de Bossembele à Yaloké. Et que Yaloké-Bossemtele se confie à une entreprise camerounaise qui s'appelle le groupe ANZA qui aussi va démarrer. Et que nous avons aussi Bossemtele-Baoro qui est confié à l'entreprise centrafricaine. Vous le connaissez, l'entreprise Semence qui a aussi déjà démarré. Il est au-delà de 15 km. Donc vous allez voir que cette section-là, d'ici 2 mois, ça va être fluide depuis Baoro jusqu'à Bangui.
Les travaux du tronçon aéroport Bangui-Poko PK0 sont financés par le fonds saoudien à plus de 6 milliards de francs CFA. Un projet du gouvernement dans le cadre du relèvement après la crise que le pays a connue.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekelo Kaines malgré la tension entre les étudiants de l'Institut de sciences de management et le responsable de l'établissement. Les soutenances pour cette année académique ont commencé lundi.
Les étudiants étaient en colère après avoir appris que l'établissement n'est pas reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Un dossier suivi par Alexia Félix Mbandi.
Cette crise au sein de l'ISM Africa a commencé le 3 novembre. Selon Jafar Jamal, un des inscrits dans cet établissement, 8 étudiants en 3e année de génie informatique ont été arrêtés pour avoir demandé au responsable de l'ISM Africa plus de clarté sur les documents administratifs de l'Institut.
Cette revendication était de savoir si notre institut est reconnu par le ministère et aussi que l'université reconnaît l'institut. Nous délivrons des diplômes à la fin de notre licence. Et ensuite, ce dernier est parti chercher des policiers pour venir nous arrêter. On était au nombre de 8 à embarquer dans le véhicule. Arrivé au commissariat, on a retenu 2, dont moi et un collègue, Maleporo.
Selon Wilfried Mbombo, fondateur de l'ISM Africa, son établissement est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais c'est au niveau de l'université de Bangui que les procédures traînent.
ISM Africa est bel et bien reconnu par les instances de l'enseignement supérieur en République centrafricaine. Avant sa création, le fondateur de ISM que je suis a constitué les dossiers à fournir et déposé au ministère de l'Enseignement supérieur, seule instance habilitée à délivrer les agréments de l'enseignement supérieur en République centrafricaine. Et cela, il y a plus de 3 ans. Nous avons les documents d'accusés de réception qui font foi.
C'est depuis 3 ans que l'ISM Africa est opérationnel. L'établissement vient de mettre sur le marché de l'emploi la première promotion des communicateurs et managers.
Alexia Félix Mbandi sur Radio Ndekeluka.
À Bria, dans la Haute-Coteau, le phénomène de filles-mères prend de l'ampleur.
Cette situation constitue non seulement un frein à la scolarisation de ces filles, mais elle les contraint aussi à abandonner leurs études. Correspondance de Gasmala Mustapha.
Ce phénomène touche majoritairement les filles de 14 à 16 ans. Celles qui ont contracté les grossesses non désirées et des mariages précoces ont abandonné les études et vivent actuellement dans des conditions difficiles. Certains parents parlent de malédiction, d'autres mettent dans le compte de la pauvreté et du vagabondage. Mais que faire pour résoudre ce problème social ? Agnès compte encore sur les autorités pour y faire face.
À Bouya, beaucoup de femmes enceintes ont été abandonnées par leurs copains qui refusent d'assumer les charges. Je souhaite que le gouvernement fasse quelque chose en faveur de ces jeunes garçons irresponsables et désœuvrés afin qu'ils puissent trouver quelque chose pour subvenir à leurs besoins.
Thérèse, qui avait contracté la grossesse à l'âge de 15 ans, témoigne les difficultés rencontrées.
Quand tu es encore chez tes parents et que l'homme qui te convoite parvient à t'embrasser, ce sont souvent tes parents qui se battent pour t'assister. Mais lorsqu'ils ne parviennent pas à supporter les charges, ils te mettent à la porte. Même si tu loues, tu n'arrives pas parfois à payer le loyer. Et trouver quelque chose à manger pour toi et ton enfant n'est pas aussi facile. Il s'agit de dire aussi quelque chose à mes pères, c'est que même si elles reçoivent des avances des hommes, il ne faut pas qu'elles acceptent et elles ne doivent pas abandonner.
Face à cette situation, le pourcentage des filles dans les établissements scolaires à Bria est peu encourageant. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Un chapitre COVID-19 en République centrafricaine. Le ministère de la Santé a annoncé hier 7 nouveaux cas de contamination dans notre pays depuis samedi.
C'est ce qui porte le nombre des malades à 4907, dont 4817 guéris et 63 décès. L'Afrique a franchi la barre de 2 millions d'infections. Dans le monde, le COVID-19 a touché près de 56 millions de personnes, dont plus de 35 millions de guérisons et plus d'1 338 000 décès.
À l'international, Inès, les autorités congolaises annoncent cette semaine la fin de la 11e épidémie d'Ebola.
Oui, Verdiane, l'annonce a été faite par le ministre congolais de la Santé. L'épidémie a été déclarée au mois de juin de cette année dans la province de l'Équateur. La 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo avait touché 120 personnes et a fait au moins 55 morts selon l'OMS. La page sport, une présentation de Bienvenue Bello, bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Éliminatoire Cannes-Cameroun 2022, les supporters des fauves de la diaspora demandent aux autorités centrafricaines de mettre les moyens pour préparer les footballeurs.
Les fauves sont partis jouer la double confrontation face au Maroc sans disputer un seul match amical. Le regroupement s'est fait en quelques jours avant le premier match, ce qui justifie en partie les défaites des centrafricains le 13 à Casablanca et le 17 novembre à Douala. Un point de vue d'Abdoul Nasser, un ancien footballeur actuellement à Douala au Cameroun. Il sollicite l'implication financière de l'État dans la préparation de cette équipe.
J'ai toujours l'habitude de dire, le ballon, c'est quelque chose qui ne se peut pas. On ne peut pas se lever un matin comme ça pour venir jouer et pour gagner. C'est impossible. Dans toutes les défaites de fauves, moi je n'ai pas accusé les jeunes. On n'a pas préparé les joueurs, raison pour laquelle vous avez vu le résultat qu'on a eu. Je n'ai pas tiré sur le jeu. C'est seulement le dirigeant du pays. Il n'a pas mis les moyens nécessaires au niveau des footballeurs. Et la raison pour laquelle ça a payé, même au niveau des arbitrages, on a vu ça. Ce n'est pas bien en tant que tel. On a vu ça. Vis-à-vis du match, l'arbitre, il est de l'Afrique centrale. Et comment se fait-il que quelqu'un de l'Afrique centrale va favoriser les gens de l'Afrique du Nord? Ça là, si on globalise, on va beaucoup parler.
Malgré les 2 défaites pour les 3e et 4e journées des éliminatoires, Abdoul Nasser retient le courage et le sacrifice de ses fauves.
Ce que je peux retenir comme des biens, c'est seulement le courage des joueurs. Et d'après mon allocution à propos des joueurs, il y a certains joueurs qui se sacrifient par rapport à la nation. Mais il faut aussi on leur donner leur place. Ce n'est pas qu'on se lève toujours chaque matin pour critiquer. Ça ne sert à rien de se lever le matin pour critiquer de gauche à droite. Il faut proposer aussi. On ne critique pour rien. On critique pour proposer quelque chose de mieux. Et voilà le résultat qu'on a envie de trouver ça.
François Zaoui, entraîneur national des Fauves, regrette le fait de ne pas jouer un match amical. Toutefois, il garde espoir pour se qualifier à la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun voisin.
On n'est pas passé si loin que ça. Il y a eu beaucoup de faits de jeu, beaucoup de situations qui ne nous étaient pas favorables. Je pense que l'équipe s'est bien battue et que nous, comme enseignement, c'est vraiment la préparation qu'on n'a pas faite. Les deux matchs qu'on n'a pas exploité la date FIFA là, nous a un peu beaucoup pénalisé. Parce que après aussi, la condition physique, j'ai vu nos joueurs, certains qui avaient des crampes, des locaux surtout. Si on se remet au travail sérieusement, les deux matchs y arrivent, on a nos chances de qualif. C'est-à-dire quand tu prends un 4-1, 2-0, alors que bon, le deuxième, il a nos deux types, parce qu'on veut égaliser. On se jette, on veut faire match nul. Mais à l'arrivée, il y a 2-0 et il y a 4-1. Donc les gens ne retiennent que les scores. Alors que dans l'esprit, dans le jeu, dans l'engagement, on s'est aperçu vraiment que notre équipe a donné ce qu'elle pouvait, malgré l'effet de jeu. Mais je pense que si vraiment on continue à travailler, on peut créer l'espoir.
Propos recueillis à Douala par vous. Bienvenue, Bélo.
Plusieurs supporters ont fait le déplacement de Douala pour se joindre à la communauté centrafricaine qui est présente dans cette ville du Cameroun pour encourager les Fauves.
Et c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndekeluka, le journal à suivre sur notre site internet www.radiondekeluka.org. N'oubliez pas également de visiter nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. La version Sango, c'est tout de suite.